Chapitre 33. La première chose que fit Ballard, après avoir rejoint sa voiture de fonction avec Bosch, fut d'appeler Paul Masseur sur son portable. « Paul, dit-elle, j'ai besoin de vous voir. »«
Vraiment ? »
dit-il.
« On est dimanche, qu'est-ce qui se passe ?»«
J'ai besoin d'un mandat de perquisition en béton armé. Pas question que ça nous revienne en pleine figure au tribunal. »«
Et vous en avez besoin aujourd'hui ?»
J'en avais déjà besoin il y a 10 minutes. Vous pouvez venir? Je vous en prépare les grandes lignes. Promis juré, vous ne ferez que passer.
Vous ne pourriez pas m'envoyer la demande par mail? Je pourrais la revoir sur mon portable?
Non, je vous veux au poste de travail pour qu'on puisse faire ça ensemble.
D'accord. Donnez-moi 1 heure et j'arrive.
Merci. Et Paul, vous ne dites à personne de l'équipe que vous êtes en train d'arriver. Absolument personne. Elle raccrocha avant qu'il puisse lui redemander ce qui se passait et commença à descendre la colline jusqu'à Sunset Boulevard.
« Tu n'as pas besoin de moi pour ça, si ?» lui demanda Bosch. « Paul et toi la rédigerez ensemble. »
Elle se tourna vers lui. « J'imagine, » dit-elle.
« Sauf que tu as écrit plus de demandes de mandat de perquisition que Paul et moi réunis.
Où dois-tu encore filer ?»«
Je pensais aller chercher ma voiture et suivre Rawls, » répondit-il, « si j'arrive à le trouver. »
Elle acquiesça d'un signe de tête.
C'était ce qu'il fallait faire. « Bonne idée, » dit-elle. « Je pourrais te trouver son adresse dans les dossiers de l'équipe. » Il a aussi un bureau au-dessus d'un de ses magasins, le premier qu'il a ouvert à Santa Monica. C'est son navire amiral, et c'est de là qu'il dirige tous les autres. Tu trouveras l'adresse, ça s'appelle DGP Mailboxes and More.
Compris.
Mais DGP, un jour je l'ai entendu dire aux autres que c'était les initiales de Don't Go Postal. Mais ça, personne n'est censé le savoir.
Joli.
Profond même. Et sa voiture?
J'ai des copies de toute la paperasse qu'il a remplie pour rejoindre l'équipe, dont une description de sa voiture avec son immatriculation pour la sécurité de la Manson.
Bien, envoie-moi aussi ça. Et lâche-moi à Sunset Boulevard, je prendrai un lift pour rentrer chez moi, ça t'économisera du trajet.
Tu es sûr?
Ma voiture est tout à l'opposé de la Manson, et toi tu as besoin d'y être et de commencer à rédiger ta demande.
Le feu passant au vert, elle tourna de Sunset Plaza dans Sunset Boulevard et se gara le long du trottoir d'une agence immobilière. Bosch marqua une pause avant de descendre et regarda la vitrine de l'établissement.
« Quoi ?» lui demanda Ballard. « Rien. J'ai travaillé sur une affaire de meurtre ici même à l'époque où c'était une bijouterie de luxe. Deux frères qui se sont fait assassiner dans l'arrière-boutique.
« Oh, mais je m'en souviens !»
Et là encore, il s'agissait de flics pourris.
Il posa le pied par terre et se retourna vers Ballard avant de refermer la portière.
« Je t'appelle dès que j'ai Rawls dans le viseur. »«
Reçu 5 sur... je voulais dire bonne idée. »«
T'as failli. »« Me suis rattrapé juste à temps. »« Bonne chance pour le mandat. »
Il referma la portière. Ballard se réinséra dans la circulation et eut droit à un coup de klaxon d'un conducteur qui trouvait qu'elle lui avait coupé la route. Elle vérifia dans son rétro et vit Bosch en train de regarder son portable debout sur le trottoir. Il cherchait un véhicule pour rentrer chez lui. 1 heure plus tard, Ballard avait rejoint son poste de travail à la Manson et mettait la touche finale à l'énoncé des « causes raisonnables » à inclure dans la demande de mandat de perquisition qu'il autoriserait à prélever de l'ADN dans la bouche de Ted Rawls. Paul Masseur arriva, en short et chemise de polo rentrée dedans.
« Ah merde !» s'écria Ballard, « je vous ai arraché à votre partie de golf ?»«
Pas grave, » dit-il, « j'étais au 17e trou du green de Wilshire quand vous m'avez appelé et j'aurais dû me taper le trajet à pied. J'ai donc fait mon dernier trou, pris vite une douche et suis venu ici directement. »
Sur quoi elle lui montra sa tenue de golf du doigt avant d'ajouter
« Je l'ai acheté à la boutique parce que je n'avais rien à me mettre dans mon casier. »
« Bon, alors, j'ai la déclaration des causes raisonnables. Je vais l'imprimer et vous pourrez commencer tout de suite. »
« Tout est dans la déclaration des causes raisonnables quand on veut obtenir un mandat de perquisition.
Elle doit convaincre le juge qu'il y a là suffisamment de raisons juridiques pour qu'il autorise la perquisition et la saisie d'un bien ou d'une personne. Tout le reste n'est en gros que du texte standard, que le juge auquel on le soumet ne fera probablement que survoler pour aller droit aux causes raisonnables. « Qui est d'astreinte aujourd'hui ?» demanda ma sœur. « Vous avez vérifié ?»« Non, » répondit-elle. « Vous vous en chargez pendant que je passe ça à l'imprimante ?» C'était le nom du juge de service pénal après les heures ouvrées des tribunaux de la division que ma sœur voulait avoir. La question était capitale, dans la mesure où chaque juge avait une vision et des pratiques particulières qu'on connaissait dans le milieu à force d'étudier les avocats de l'accusation qu'il engageait et les officiers de police qui allaient le voir pour qu'il accepte leur demande de mandat. Certains défendaient farouchement le 4e amendement qui protège les citoyens contre toute perquisition et saisie illégale. D'autres, plus dans la ligne que force reste à l'ordre et à la loi, ne voyaient jamais rien à redire au moindre mandat de perquisition. En plus de quoi, tous les juges étaient élus. S'ils avaient pour tâche d'user de leur pouvoir sans le moindre biais personnel ou politique, il n'était pas rare que certains risquent un coup d'œil sous le bandeau de la justice aveugle, en songeant aux ramifications électorales de tel ou tel de ces arrêts, du genre autoriser ou défendre l'État de prélever un échantillon d'ADN sur la personne d'un ancien flic soupçonné de meurtre. Ballard revint de l'imprimante et tendit à ma sœur sa déclaration de cause raisonnable, longue de 2 pages pile à l'instant où il raccrochait son téléphone de bureau. « C'est le tour de Canterbury, » dit-il, « et ça, c'est pas bon. Il est tout ce qu'il y a de plus strict sur les questions de fouille et de saisie. » « C'est ce que j'ai entendu dire, mais je pourrais avoir un autre moyen. » Les 3/4 des inspecteurs prenaient soin d'établir de bonnes relations avec un juge sur la sympathie duquel ils pourraient compter côté cause raisonnable. Cela revenait bien à choisir son juge, mais cela se pratiquait couramment. Toutes les années qu'elle avait passées au service de nuit de la division d'Hollywood avaient vu, et plus d'une fois, René Ballard réveiller un juge en pleine nuit pour lui faire signer un mandat de perquisition. Dans sa liste de contacts, elle avait ainsi plusieurs noms à appeler si ni elle ni ma sœur ne voulaient passer par Canterbury. Elle montra du doigt le document que ma sœur tenait dans sa main. « Vous allez être sacrément choqué par ce que vous allez lire, » l'avertit-elle. « Et je vous interdis d'en parler à quiconque. Est-ce clair ?»«
C'est clair, oui, » répondit-il. « Et maintenant, je meurs d'envie de savoir. »
Elle le laissa à son poste, rejoignit le sien, et pendant qu'il parcourait sa déclaration, elle ouvrit un des livres du meurtre de Sarah Pearlman et se plongea dans la lecture des comptes rendus d'interrogatoire menés par les premiers inspecteurs affectés à l'affaire. Sa mémoire ne l'avait pas trompé. Il semblait bien qu'il n'y ait jamais eu le moindre interrogatoire de Nelson Hastings ou de Ted Rawls. Et cela valait aussi pour tous les rapports de laboratoire de l'époque. Ni l'un ni l'autre, il n'avait eu la moindre empreinte de paume comparée à celle retrouvée sur l'appui de fenêtre de la chambre de Sarah Pearlman. Il s'agissait là d'une faille d'importance dans la première enquête. Hastings et Rawls étaient de grands amis de Jake Pearlman et connaissaient sa sœur. Ils auraient dû être interrogés, comme Kramer l'avait été, et leurs empreintes prises. Qu'il n'en ait rien été contredisait ce que Ballard avait cru être une enquête solide et exhaustive. Et vu que les enquêteurs d'origine n'étaient plus disponibles, elle songea qu'il n'y avait qu'une seule personne à laquelle elle pouvait parler pour clarifier la situation. Elle appela Nelson Hastings.
« Vous l'avez arrêté ?»
lui demanda-t-il aussitôt. « Non, et nous n'en sommes pas là, » répondit-elle. « Nous avançons prudemment. »
Qu'attendez-vous de moi ?
Je suis en train de relire les transcriptions des interrogatoires menés lors de la première enquête et je vois que ni vous ni Rawls n'avez été interrogés, je ne comprends pas. Vous étiez amis avec Jake, et j'imagine que tous les deux vous connaissiez Sarah. Vous en souvenez-vous ? Pourquoi personne ne vous a-t-il interrogé ?
Je n'étais pas à Los Angeles. J'étais avec mes parents quand le meurtre a eu lieu. Les inspecteurs ont parlé à mon père et à ma mère et ont confirmé mon alibi. Ce qui fait qu'ils ne m'ont jamais parlé à moi. Et Ted, lui, n'était pas dans le tableau à l'époque.
Que voulez-vous dire?
Qu'il était dans les parages, mais pas aussi proche que Jake Kramer et moi. C'était, disons, le petit nouveau. Nous étions en dernière année de lycée et allions tous décrocher notre diplôme de fin d'études secondaires. Nous avions déjà reçu nos affectations en fac et, tous les trois, nous avions été acceptés à UCLA. Mais après, pendant l'été, nous avons appris que Ted y avait lui aussi été accepté. Et on a commencé à, disons, l'inclure dans des trucs. On l'a pris sous notre aile parce qu'on allait fréquenter la même fac. Sauf que ça n'est jamais arrivé.
Pourquoi ?
Eh bien, pour commencer, j'ai changé d'idée et je me suis engagé dans l'armée et n'ai donc jamais fréquenté UCLA. Et Ted non plus. Il s'est passé quelque chose et il a fini par aller au Community College de Santa Monica, avant de rejoindre les flics du coin.
Aurait-il pu mentir en disant qu'il avait été accepté à UCLA ? Ne faire que le déclarer pour pouvoir être dans votre groupe ?
Peut-être, je ne sais pas. Vous voulez dire qu'il nous aurait collé aux fesses pour savoir des trucs sur Sarah et sur l'enquête ? C'est tordu.
Mais possible. Sauf qu'à l'époque du meurtre, il n'était pas assez proche de Jake pour que les inspecteurs veuillent lui parler.
Voilà, exactement.
Connaissait-il Sarah ?
Il aurait pu. Comme elle fréquentait une école de filles, elle venait à nos soirées, à nos fêtes pour rencontrer des garçons. C'était Jake qui l'amenait. Alors, oui, Ted aurait pu la connaître, en tout cas savoir qui elle était.
Ballard remarqua que ma sœur se tenait maintenant tout à côté d'elle et vit qu'il avait souligné en rouge des passages de sa déclaration de cause raisonnable. Elle leva un doigt pour lui indiquer qu'elle avait presque fini de téléphoner. « Encore une question, » reprit-elle. « En 2005, Rawls était flic à Santa Monica. » Il ne faisait pas partie de la campagne de Pearlman, n'est-ce pas ? Il y eut un autre silence avant que Hastings ne lui réponde.
« Vous pensez aux Pins ?»
dit-il.
« Et la réponse est si. Il s'était porté volontaire. C'est Kramer qui l'avait recruté. Il faisait son service à Santa Monica et après, il venait nous retrouver chez Greenblatt's, où on rassemblait tous les bénévoles avant d'aller faire du porte-à-porte. Il a fait ça plusieurs fois. »
Il aurait donc très bien pu frapper à celle de Laura Wilson et lui donner le pins. Ce n'était pas une question.
« Oui, »
dit Hastings. « Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé, » dit-elle. « On reste en contact. » Elle raccrocha et tendit la main pour que ma sœur lui donne le document. « Désolé, » dit-il, « mais vous n'avez pas ce qu'il faut. » Elle regarda la sortie d'imprimante, il avait entouré sa déclaration d'un gros rond rouge. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est faible. L'ADN recueilli dans l'affaire Wilson indiquait une maladie des reins. Rawls en a reçu un de Hastings parce qu'il était effectivement malade, mais il n'y a aucun lien entre Rawls et Wilson. Qu'elle ait eu un pins de Pearlman n'est rien. Ça aurait pu être un hasard. Des pins comme celui-là... Il y en avait probablement des milliers, et moi je crains que Canterbury ou n'importe quel autre juge ne voie les choses ainsi. Vous demandez un prélèvement de son ADN, et encore la permission de fouiller sa maison et sa voiture et même son bureau ici. Vous demandez la lune, René. Et je suis désolé. Mais si j'étais encore assistant du district à Tornay, je ne vous laisserais jamais aller voir un juge avec ça. C'est justement pour ça que vous êtes là. « Voyons un peu rien que l'ADN. Avez-vous songé à une collecte subreptice ? Rawls est flic, et comme il sait qu'on a déjà fait ça avec Hastings, il sera bien trop prudent. Regardez un peu son bureau, il est tellement propre qu'on a l'impression que personne ne s'y assied jamais. Il est probablement passé ici hier pour le nettoyer, après avoir compris ce qu'on fabriquait avec Hastings. Eh bien moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne ? Ce dont on est sûr, c'est qu'il est suspect, mais c'est justement pour ça qu'on a besoin de ce mandat. Pour rassembler des éléments qui prouveront ou infirmeront nos soupçons. Nous ? Harry Bosch travaille sur ce dossier avec moi. Il doit être en train de surveiller Rawls en ce moment même. Et donc, et si... Elle ne termina pas sa phrase parce qu'elle ne faisait que réfléchir tout haut. Et si quoi ? Insista ma sœur. « C'était à Hastings que je parlais à l'instant, » dit-elle.
Il m'a confirmé que Rawls avait bien travaillé comme volontaire dans la campagne de 2005, qu'il avait frappé aux portes et distribué ses pins.
Hastings vous a-t-il dit si Rawls a frappé à la porte de Laura Wilson ou s'il s'est même seulement trouvé dans son immeuble? A-t-il lâché quelque chose qui relie directement Rawls à Wilson?
Non, rien d'aussi net. Mais il a rejoint le cercle de Jack Pearlman presque aussitôt après l'assassinat de sa sœur.
Ma sœur hocha la tête. « Il y a du bon dans votre déclaration, dit-il, mais pas assez pour montrer ça à Canterbury. Avez-vous un juge coulant à qui l'apporter? Le mien a pris sa retraite il y a 2 ans. »
Ballard réfléchit un instant avant de répondre. Elle en avait bien un à l'esprit, mais c'était compliqué. Le juge Charles Rowan s'intéressait souvent plus à la femme qu'à l'inspectrice qu'elle était. Aller chez lui pour qu'il lui signe un mandat impliquerait de danser un petit tango qui ne la ravissait pas et lui ferait honte. Avant Rowan, elle avait eu une juge avec laquelle il n'y avait rien à faire de pareil. Mais Caroline Wickwire avait perdu sa réélection lorsqu'un ancien procureur populaire s'était présenté contre elle en arguant qu'elle n'était pas assez ferme dans la répression des crimes.
« J'en ai un que je pourrais aller voir, » dit enfin Ballard. « Bien. Ajoutons ce que vous avez tiré de Hastings, gonflons un peu tout ça, et on voit ce que ça donne. »